Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cet autre épisode de Jason Ballon Rond. Écoutez, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées aux premières loges, entre autres sur la Coupe du Monde, qui a fait en sorte qu'on en a moins fait. Mais là, on est de retour. Durant le temps des fêtes, on enregistre, il est maintenant le 23 décembre, tout juste avant Noël. Donc, et la tempête présentement, on vous dit de faire attention sur les routes, mesdames et messieurs. Et puis, bien sinon, on a un épisode très chargé et bonbon pour vous aujourd'hui. Je pense que vous allez adorer. Et avec moi, pour en parler, j'ai des collaborateurs en or pour ça. Nous avons Doualé Ibrahim et Thomas Lafont. Comment ça va, les gars?
Ah, ça va bien. Très haute. En fait, très content de revenir à Jason Ballon.
Ah, moi aussi, je suis hyper content d'être là. Puis... moi, j'ai surtout hâte à la dernière partie du show. Là, c'est là que ça va être bon. Mais écoute, tout l'épisode va être bon. Fait que très excité d'être là. Puis j'espère que toi aussi, Ali, tu vas bien.
Ah, moi, merci de le demander. Je vais très bien. Écoutez, c'est sûr que là, avec Noël et tout, qui va être encore très restreint là, dû à la tempête. Là, moi, j'ai mes grands-parents qui pourront sûrement pas venir à cause de la tempête. Là, donc, ça c'est plate. Puis la COVID aussi qui vient s'immiscer là-dedans là, encore. Là. Fait que, bon, écoute, c'est frustrant un peu, mais bon, on a des podcasts puis des bonnes conversations quand même qui font en sorte qu'on passe ça dans le plaisir. Donc, le menu du jour, messieurs, t'en as parlé, d'où un gros show. Le menu du jour, on va revenir brièvement sur la Coupe du Monde. Faut en parler quand même, ça fait quelques jours que c'est terminé avec une finale sensationnelle. Là, on en a parlé aux premières loges, là. Fait qu'on va faire un mini-retour là-dessus. Ensuite, actualité dans le monde du CF Montréal. Là, il y a des gros changements qui ont été faits dans les derniers jours. Il va falloir en parler, c'est certain. Mais le gros sujet de ce balado, qui va être sûrement le titre, là, j'imagine, c'est qui est le GOAT, messieurs? Qui est le GOAT sur la planète foot, dans toute l'histoire du soccer? Qui est le meilleur joueur de tous les temps? Est-ce que c'est Lionel Messi qui vient de remporter une Coupe du Monde? Est-ce que c'est Pelé, le grand Brésilien, Cristiano Ronaldo, qui d'autre? On ne vous en dit pas plus, on va garder ça pour la fin de l'épisode, mais on vous dit tout de suite que ce n'est pas tout le monde qui partage la même opinion parmi nous trois. Donc, vous allez voir ça tantôt. Restez jusqu'à la fin de l'épisode pour ce débat. Mais avant toute chose, on va commencer avec la Coupe du Monde. Les gars, je ne sais pas quelles questions vous posez, il y en aurait plein, mais je vais commencer avec votre moment le plus marquant de cette Coupe du Monde-là. Et on exclut la finale, s'il vous plaît. Ça serait fort de dire la finale. Je vais commencer avec Tom.
Écoute, c'est une bonne question parce qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup. Mais je vais y aller avec quelque chose qu'on n'a pas beaucoup parlé pendant la Coupe du Monde, c'est quand même surprenant. Parce que le Canada était là. Je pense qu'on a comme collectivement oublié que le Canada était là après la phase de groupe. Mais écoute, une bonne performance du Canada pendant la Coupe du Monde. Oui, 3 défaites. Par contre, comme on a pu le remarquer, c'était le groupe de la mort. 2 demi-finalistes. La Belgique qui était deuxième au classement FIFA. Donc, belle performance pour le Canada. Marqué un but également, premier but à la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, c'est le but...
le plus rapide, oui.
Oui, le plus rapide de cette Coupe du Monde. Donc, faut le donner à Alphonso Davies. Grosse performance. Puis ça laisse présager des bonnes choses pour 2026.
Oui, t'as très bien raison là-dessus. Je pense qu'on espérait mieux. Je pense qu'on aurait même pu faire mieux du côté canadien pour ça, mais... ça donne de l'expérience, ça donne du bagage pour 2026. Puis, contre la Belgique, je pense que c'est vraiment le plus gros remords du Canada dans cette compétition-là parce que c'était leur meilleur match du tournoi et ils s'est soldé avec une défaite crève-cœur de 1-0 alors qu'on aurait pu là, marquer au moins un, si ce n'est deux buts contre la Belgique. Mais bon, ce n'est pas arrivé. Ce sont des choses... qui arrive, mais oui, tu sais très bien de souligner cette performance-là du Canada et du groupe F en général, qui a été une histoire en lui-même, là, le groupe F, avec la Croatie et le Maroc surtout, qui se qualifie, puis la Belgique, qui ne passe même pas, grosse déception de la Belgique. Toi, d'où ton moment le plus marquant autre la finale?
Écoutez, juste pour revenir rapidement sur le point de Thomas, en fait, moi, en étant Canadien, j'ai été pleinement satisfait de voir cette équipe canadienne jouer parce que l'équipe canadienne est arrivée dans cette Coupe du Monde sans vraiment avoir des grosses attentes parce que genre, le but avait été accompli, le but initial qui était de se qualifier pour une Coupe du Monde, puis c'est exactement ça qui s'est passé. Bon, on s'est rendu compte que ça a été plus difficile, qu'il y a certaines lacunes à améliorer du côté de l'équipe canadienne. Mais écoute, le meilleur est à venir. Moi, j'ai très hâte à 2026. C'est une équipe où que la majorité des gros noms vont arriver à leur prime. Donc, quand on parle des Buchanan, des Alphonso Davies, des Jonathan David, que oui, il y a eu une Coupe du Monde assez difficile pour Jonathan David, mais c'est tous des joueurs qui vont arriver à 25, 26, 27 ans lors de la Coupe du Monde de 2026. Donc ça risque d'être intéressant. T'as Ismaël Koné qui vient tout juste de quitter le CF, qui s'en va du côté de l'Angleterre. Lui aussi, ça va être hyper intéressant de voir ce qui va se passer dans 4 ans. Lui risque d'être le joueur important au milieu de terrain du côté du Canada. Puis écoute, pour le reste, pour la suite des choses, bon, hâte de voir s'il va y avoir d'autres jeunes joueurs, qui vont réussir à s'implanter puis surtout à arriver à pousser pour avoir une place avec l'équipe canadienne. Donc, vraiment, moi, j'ai hyper hâte pour dans 4 ans. Surtout que c'est une qualification automatique vu que le Canada fait partie des pays hôtes de la prochaine Coupe du Monde. Donc, ça, c'est intéressant. Mais vas-y, Tom.
En regardant ça, avec la Coupe du Monde qui fait maintenant 48 équipes, je ne sais pas. Le Canada ne va sûrement pas attendre un autre 36 ans après 2026 pour se qualifier. Donc, plus de qualifications. Ça donne plus d'argent au programme, puis ça va permettre un meilleur développement des jeunes. C'est un cercle qui n'est pas vicieux. Je ne sais pas si c'est quoi le contraire là-dessus. Ouais. Mais c'est un processus qui peut juste être positif pour le soccer canadien.
Puis surtout que c'est une visibilité monstre, celle de la Coupe du Monde. On peut le voir, ça va probablement inspirer beaucoup de jeunes à aller jouer au soccer. Puis grâce à ça, il faut voir que le niveau masculin va augmenter. Déjà que le niveau féminin est au top, le Canada est un des meilleurs pays sur le football féminin sur la planète. Déjà là, c'est cool. Mais si en plus, tu es capable d'avoir les gars et les filles qui sont capables de dominer au niveau international, ce serait leader pour les Canadiens. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Ce n'est pas pour maintenant. Mais pour revenir à ta question, Ali, au moment, écoute, j'en ai plusieurs, mais je vais aller avec la qualification du Maroc pour la demi-finale.
On peut pas passer à côté,
De la Coupe du Monde, parce que ça, en fait, c'est historique comme situation. Enfin, de voir un pays africain être capable de se qualifier plus loin que les quarts de finale, ça a vraiment fait du bien. Puis cette équipe du Maroc a été, pour moi, impeccable jusqu'en demi-finale. T'es seulement accordé un but jusqu'à leur match contre l'équipe de France, qui n'est pas n'importe qui. L'équipe de France, je vous rappelle, est champion du monde en 2018, finaliste de la dernière Coupe du Monde. Et en plus, on aurait pu gagner cette Coupe du Monde-là, c'est rendu jusqu'au tir au but. Donc, ils étaient à quelques petites chances de pouvoir être champion du monde encore une fois. Mais bref, ils avaient seulement accordé un but jusqu'à la demi-finale. Puis c'était un but contre son camp, contre le Canada aussi. C'est un fait à mentionner. Mais de voir cette équipe-là, qui est une équipe où il y a eu plusieurs révélations du côté de l'équipe marocaine. Bon, on connaissait les Hakim Ziyech, les Achraf Hakimi, on les connaissait, mais Yacine Bounou, que oui, on connaissait, on le connaît grâce, parce que nous, on connaît beaucoup, on est des connaisseurs de soccer.
Ouais,
on le voyait du côté de Séville, on savait que c'était un gardien de but qui est quand même de bon niveau, parce qu'il joue quand même en Liga, il joue en division 1 espagnole, donc... là-dessus, on le savait, mais
être. Rabat, par exemple.
Rabat, Ouniaï aussi, du côté du milieu de terrain.
Ouniaï Amrabat,
du côté du Maroc, qui était extraordinaire. Pour moi, une des grandes révélations de ce tournoi-là, là, c'est surtout, je pense que c'est la révélation pour moi au milieu de terrain. Je l'aurais même mis en avant de Enzo Fernandez, mais ça, c'est un débat, c'est un autre débat à avoir.
Ouniaï ou Amrabat, que tu aurais mis devant Enzo?
Ouniaï.
Ounaï, ouais, moi aussi, je pense que c'est un excellent choix. Là.
Mais c'est ça, je la remets au-dessus, mais bref, il y a eu plusieurs grandes révélations.
Ouais, il y avait plusieurs choix là, pour le meilleur titre du meilleur jeune de l'année.
Le meilleur jeune
du tournoi, pas de l'année.
Ouais, c'est ça, mais bref, ça reste à voir, hein, l'année est encore jeune, hein, il reste encore. C'est ça qui est fou avec une Coupe du Monde en pleine saison, c'est qu'il reste encore la deuxième moitié de la saison qui arrive pas plus tard.
On parle de la saison de soccer, pas l'année civile, pour bien que vous compreniez. L'année civile, effectivement, elle achève. Là.
Merci pour la précision. Mais c'est ça. La saison 2022-2023 qui va continuer à partir du 26 décembre. Puis jusqu'au mois de mai. Déjà là, ça risque d'être intéressant. Ça reste la suite des choses, surtout en Europe. Mais bref, cette équipe du Maroc, sensationnelle. Une équipe qui, défensivement, était incroyable, il faut le dire. Là. C'était extrêmement... une défense très aromatique. Laisser peu d'occasions de marquer à l'équipe adverse. Malgré qu'ils n'avaient pas beaucoup de possession de balle, là, le Maroc, il faut le dire. Puis, tu avais l'impression que les frappes des équipes adverses, des fois, n'étaient pas dangereuses. Mais malheureusement, pour l'équipe du Maroc, ils sont tombés sur... Sur un demi-finaliste extrêmement fort en équipe de France. Donc, c'était très difficile pour eux. Mais écoute, chapeau au Maroc qui, pour moi, a été l'équipe cendrillon du tournoi. Puis, il y a eu d'autres moments aussi, il faut dire, Ali. Ouais. Je ne sais pas c'est quoi ton moment pour toi, là, mais il y en a d'autres moments dans la Coupe du Monde. Là.
Moi, si tu ne disais pas le Maroc, c'est sûr que j'allais là. Mais moi, en termes de moments, je vais y aller avec un seul match, là, même si je pourrais en nommer plein. C'est sûr que le plus gros match est de loin la finale. Là. On va pas en reparler trop parce qu'on a fait un épisode de 50 minutes aux premières loges là-dessus. Allez l'écouter ou le réécouter si vous voulez, mais c'était une finale, une des meilleures finales de tous les temps, un des meilleurs matchs sportifs de tous les temps. J'hésite pas à le dire. Là. Mais un autre gros match dans cette compétition-là pour moi, c'est le quart de finale France-Angleterre. Qui était tactiquement et visuellement, là, pour l'avoir regardé au complet et très attentivement, là, ça a été un match extrêmement divertissant à regarder, même s'il y a seulement eu 3 buts. Là. Il y a eu un penalty raté d'Harry Kane. Il y avait beaucoup de constructions offensives intéressantes des deux côtés. Ça se partageait les occasions de marquer. Il y a eu un temps fort français au début, un temps fort anglais ensuite. C'était vraiment, ça aurait pu être une finale, ça aussi. C'était une finale avant la finale, même si la finale qu'on a eue, on ne la regrette pas du tout. Là. Mais vraiment, France-Angleterre avec un Mbappé qui était un peu plus tranquille en raison du plan anti-Mbappé de l'Angleterre, mais que ça a donné de la place et de l'espace à beaucoup d'autres talents au niveau français, dont Aurélien Tchouaméni qui a fait un but sensationnel. Les Anglais, par contre, qui, après avoir encaissé, n'ont vraiment pas abdiqué, là, vraiment pas. Et c'est eux, en fait, qui ont eu leur temps fort après le temps fort français en début de match. Bouyako Saka, Harry Kane, qui a connu un grand match aussi, malgré son penalty raté. Vraiment, c'était du très beau soccer de très haut niveau à voir. Donc, moi, je pense que c'est un match qu'on parle peut-être pas assez, mais qui était un des meilleurs de cette Coupe du Monde-là après la finale. Complètement folle, bien sûr, de dimanche dernier. Là, on a parlé tantôt un peu du format pour la Coupe du Monde 2026. Les gars, j'aimerais ça vous entendre. C'était censé être 16 groupes de 3, mais là, la FIFA va peut-être se reculer et aller avec 12 groupes de 4, qui pour moi est un format le fun, là, qui amènerait... plus de divertissement, je crois, à ce niveau-là. Est-ce que vous êtes d'accord, 12 groupes de 4, que ça serait mieux?
Oui, je suis d'accord. Je pense que d'un, ça fait plus de matchs.
Oui.
Donc, plus de sport. C'est sûr qu'on aime ça en tant qu'amateur. Mais je pense que, tu sais, même si...
Il y a plus de matchs contre différentes équipes, c'est ça que tu veux dire?
Ben non, mais plus de matchs au total, en fait. Tu sais. Mais même si c'est pas, même si on va avoir un format moins traditionnel, on voit que ça marche comme qu'on a vu à l'Euro. D'avoir des meilleurs troisièmes. Je pense que
c'est
quelque chose qui est quand même assez fun parce que non seulement est-ce que tu vas avoir besoin de faire un résultat, mettons pour les équipes qui sont pas sûres de se qualifier, mais il va falloir que tu t'épargnes des autres en même temps. Donc c'est ça qui est le fun, c'est. Ça me donne un peu une vibe de baseball, puis ben, vous savez comment à quel point j'aime ça. Donc,
ouais. Mais écoute, pour ma part, je trouve évidemment le concept de 12 groupes de 4 au lieu de 16 groupes de 3, si je ne me trompe pas.
Ouais, exact.
C'est clairement une meilleure option pour la FIFA. Mais moi, je sais pas. Moi, je suis pas tant fan du meilleur troisième parce que des fois, il y a des équipes que je trouve qui ne méritent pas d'avoir leur place, qui se crucifient à se qualifier. Bon, le meilleur exemple que je vais sortir, c'est l'Euro 2016. Le Portugal, je m'excuse. Je vais encore le répéter, je le répétais, je disais ça il y a 6 ans. Si il n'y avait pas eu ce classement de troisième meilleure place, le Portugal n'allait absolument pas gagner cet euro-là. Cette équipe-là était pas au niveau. Il n'y avait pas un niveau incroyable. Bon, tu avais Cristiano Ronaldo qui était sur une autre planète cette année-là. Mais à part de Cristiano Ronaldo, ben, en fait, c'est similaire un peu à l'équipe d'Argentine de cette année, mais l'équipe d'Argentine est beaucoup plus nantie et plus solide que celle du Portugal. Mais des fois, c'est parce que tu amènes des équipes que tu es comme « genre, est-ce que tu es certain que c'est un moins grand spectacle? » Je trouve que les matchs sont un peu moins relevés. Puis bon, vous allez me dire que c'est une Coupe du monde, il y a plus d'équipes, le niveau est beaucoup plus élevé qu'à l'Euro, c'est vrai. Mais des fois, tu as des équipes qui, à mon avis, méritent moins d'avoir une qualification que d'autres, puis qui aussi se qualifient juste en étant meilleur troisième. Surtout le Portugal, qui je vous rappelle, avait gagné 0 match dans la phase de poule en 2016. Puis après ça, c'est prolongation, séance de but. Affronte le Pays de Galles en demi-finale de l'Euro. Mm-hmm. C'est assez extraordinaire comme scénario. Puis par la suite, ben, sera en finale, puis gagne en prolongation contre l'équipe de France. Bon, bref, chapeau au Portugal pour leur titre européen, mais en général, je ne sais pas, je ne suis pas tant fan du meilleur troisième, mais écoute, c'est peut-être juste moi à la fin qui est un peu sceptique de ce format-là.
Donc toi, tu irais quand même avec
les deux premiers qui se qualifient.
Les deux premiers qui se qualifient, donc le 16 groupe de 3?
Quand on y pense, ouais, techniquement, ouais. Okay. J'allais dire ouais, techniquement, ouais.
Tu as commencé ta réponse en disant pas le 16 groupe de 3, mais finalement, c'est ça.
Non, mais c'est parce que, en tout cas, c'est... Non, maintenant que j'y repense, ouais. Maintenant que j'y repense, ouais. C'est complètement contradictoire qu'est-ce que je viens de dire. Mais écoute, je vais aller, ouais. Je pense que finalement, ouais, je vais changer mon idée, ouais, t'as raison. Je vais aller avec le 3 au lieu de 4, ouais.
Mais c'est intéressant, mais... Ce que j'aime des meilleurs troisièmes, c'est que le jour décisif, là, le dernier jour des phases de groupe, ça fait que c'est absolument le chaos au niveau du classement parce que non seulement tu compétitionnes contre les équipes de ton groupe, mais il faut que tu battes les meilleurs troisièmes des autres groupes également. Donc ça peut rendre ça très, très intéressant, je pense. C'est pour ça que moi, je préfère un 12 groupes de 4 comme Tom. Mais je pense que le meilleur, ça serait juste de rester à 32 équipes et non pas 48, mais ça n'arrivera pas parce que la FIFA ne le veut pas. Mais ça fait en sorte que c'est bien plus compétitif dès les phases de groupe si on est à moins d'équipes. Malheureusement, ça ferait en sorte que 16 équipes ne participent pas, mais bon. C'est mon opinion. Pour que ça reste à un aussi haut niveau, je pense que le 32 équipes, c'est le mieux, mais bon.
Ouais, Tom, t'as dit quelque chose? Je suis d'accord. J'en parlais avec Étienne, je pense. Puis, tu sais, il y a eu des matchs très intéressants pendant la Coupe du Monde, je pense, à Qatar-Équateur en ouverture. Sinon, Australie-Tunisie. C'est pas des grosses affiches.
Puis c'est avec, ça, ces affiches-là vont se multiplier si on est à 48 équipes. Là.
C'est ça, malheureusement. Ça va permettre à des petits pays de monter sur la scène mondiale, puis d'améliorer leur programme, puis tout ça, mais ça, on va pas avoir des affiches de qualité.
Mais en même temps, tu sais, dans cette Coupe du Monde-là, on a eu des affiches qui proposaient peu d'engouement à la base, puis qui finalement ont donné beaucoup. Tu sais, genre Ghana, Corée du Sud, ça a fini genre 3-3, je pense. Mm-hmm. Ou Serbie-Suisse, c'est peut-être un peu plus des équipes de haut niveau, mais c'est un gros match aussi. Donc, ça peut toujours donner des surprises, mais ouais, je suis d'accord qu'à 48 équipes, le jeu va être moins relevé, ça c'est certain. Bon, messieurs, c'est le temps de dire adieu à cette Coupe du Monde pour de bon, parce que
avant qu'on termine,
ouais, vas-y.
Votre 11 de la Coupe du
Monde. Oh, très bonne question.
Oh,
notre 11 de la Coupe du Monde. Oh,
Ça va être long, ça.
On a du temps. Ça va être un long épisode. C'est pas grave.
OK, ben regarde.
OK, ben toi, tu l'as-tu, Tom, ou si tu veux commencer?
OK. Dans les buts, on s'en est parlé beaucoup. Ivanovic, le gardien croate, qui a connu un excellent tournoi. Sinon, à la défense, j'ai Gvardiol.
Oui, clairement.
Ou Graviol pour ceux qui ont écouté RDS.
Oups!
Bon. On a été capable de ne pas rien dire sur Claudine Duvet pendant tout au premier loge. C'est là qu'on le sort, mais.
Sandro Martinez.
Oh, Lisandro. Okay,
ah, ouais, Lisandro Martinez, qui est
intéressant. Ouais, il n'était pas souvent tout là, lui.
Non, effectivement.
Ouais, mais quand même bien joué, je trouve. Ouais. Sinon, Upamecano qui a connu un excellent tournoi.
Ok, une défense à 3, ok.
Non, mais non, je suis sur 4 défenseurs, 3 milieux, 3 attaquants.
Ok, ok, pas, okay, pas, on respecte pas le positionnement.
Non, pas de positionnement.
Ok.
Hakimi qui a connu un très bon tournoi.
Mm-hmm.
Et en terminant, j'ai pour le troll, j'ai envie de dire Harry Maguire qui a connu un tournoi pas si pire que ça. Pour de troll.
Ouf.
Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas connu un mauvais tournoi. C'est vrai.
C'est vrai. Il n'y a pas été mauvais.
Sinon, au milieu, McAllister. Qui sur le membre d'Arsenal, selon moi.
Mm-hmm.
Enzo Fernandez.
Mm-hmm. Ouais.
Et écoute, c'est probablement un move très tough, mais Amrabat. Au milieu de terrain, il attaque bien évidemment Messi et Mbappé, sans grande surprise. Et c'est là que ça se complique un peu. Mais j'ai envie de dire Hakim Ziyech.
Oh, ok. Intéressant. Moi, je peux y aller avec le mien.
Mm-hmm, merci.
J'ai Livakovic aussi dans les buts, là, Tom l'a dit. Là. Ouais, il y avait Bounou, puis Amy Martinez et même Loris là, qui ont bien figuré aussi, mais Livakovic, là, je le dis depuis le match contre le Brésil, la Croatie ne passe pas le Brésil sans lui, c'est sûr et certain. Donc, Livakovic, pour moi, qui a été aussi très bon contre le Japon. Mais... ensuite de ça, j'ai également Gvardiol, c'est un incontournable. J'ai aussi Upamecano de la France. J'ajouterais Romain Saïs du Maroc à la place de Lisandro Martinez. Romain Saïs, on parle beaucoup de la défense du Maroc qui a accordé peu de buts, mais on ne parle pas tant des défenseurs centraux qui ont des noms. Puis Romain Saïs en est un qui a été blessé pour la petite finale, puis ça a fait très mal au Maroc, mais vraiment, là, très bien performé, M. Saïs, dans la compétition. Mm-hmm. Puis un autre défenseur que je pourrais ajouter, ben Otamendi, de l'Argentine. Honnêtement, c'est sûr qu'il y a...
Ouais, le penalty!
Grosse erreur là, sur le penalty qu'il a donné, qui a permis à la France de revivre là, complètement la finale. Mais en même temps, tu sais, Otamendi ne fait pas cette faute-là et on n'a pas une finale avec autant de rebondissements. Fait que moi, je le remercie quasiment pour ça. puis à part ça, il a connu un tournoi solide. Il m'a surpris. Là. Moi, je me demandais pourquoi on titularisait Otamendi à la place de Lisandro Martinez. Puis il a répondu présent dans ce tournoi-là quand même très bien. Fait que ouais, ça serait mes 4 défenseurs. Au milieu de terrain, je pense pas que tu l'as nommé, Tom, mais Unai, là, pour moi, on doit le mettre. Là, j'aime bien Amrabat aussi, mais bon. Unai, c'est un no-brainer pour moi. Sa vision de jeu, sa qualité de passe, j'ai une vraie révélation dans ce tournoi-là pour moi. Sinon, moi, c'est sûr que là, j'ai envie de mettre Jude Bellingham, même si c'est pas rendu aussi loin. Gros tournoi de Jude Bellingham. Même Jamal Musiala, qui avec l'Allemagne est très bien performé, mais je ne peux pas le mettre dans mon 11 là, parce qu'il ne s'est pas rendu. Il n'a pas passé la phase éliminatoire, mais il a connu de gros matchs, Musiala.
Musiala, d'ailleurs, il serait ses performances après la phase de groupe. Si Musiala était un pays, il serait classé dans le top 10 pour le plus de trips complétés.
Ben, c'est lui qui a le plus de dribbles dans le tournoi derrière Kylian Mbappé seulement.
Mm-hmm.
Puis le gars a joué 3 matchs, Kylian Mbappé en a joué 7. Fait que ça montre comment c'est fou comme statistique. Puis de touche dans la surface de réparation adverse aussi, le Moussiala. Donc, mention honorable à lui. Puis ça me fait mal de ne pas mettre Amrabat, mais je ne vais pas mettre Amrabat, bizarrement. Puis je vais y aller avec Rodrigo De Paul. Toi, t'as mis McAllister. Tom, fait que je vais mettre l'autre qui a été le garde du corps de Lionel Messi, également appelé, très physique, qui se donnait à chaque match là, pour l'Argentine, De Paul. Donc, ça va être mon milieu de terrain. Puis en attaque, tu veux faire quoi d'autre que mettre... j'ai pas mis Griezmann aussi, mais Griezmann, mention honorable, là, très gros tournoi en milieu aussi, là, c'est vrai. Là.
Ouais.
Tu mettras d'où, si tu veux. Mais Messi, Mbappé en avant avec Julian Alvarez aussi, que gros tournoi qui a permis, en étant remuant, vraiment aider beaucoup Messi là, dans le travail offensif.
J'avoue que c'est un bon choix, j'ai pas pensé à ça.
Alvarez?
Ouais.
Ouais, mais écoute, c'est
pas... J'aimerais retirer Hakim Ziyech pour mettre Alvarez.
Good, parfait. Ouais. Parfait, donc d'où, quel est ton 11?
Écoute, je pense que toi et moi, notre 11 va se ressembler. Je vais aller différent. Je vais aller différent avec vous. J'ai le goût de mettre Livakovic, mais je pense que je vais aller avec Yacine Bounou parce que Yacine Bounou a été très difficile en général. Moi, la seule affaire que j'aime un peu moins de Yacine Bounou, c'est son jeu balle au pied. Ça, il me fait extrêmement peur. C'est loin d'être sa force. Donc, ça, c'est pas l'idéal. Mais écoute, pour son tournoi, je vais le mettre. Je vais mettre comme mon gardien partant pour mon 11 type du tournoi. Je voulais dire quelque chose sur Emiliano Martinez, si vous pouvez me permettre.
Vas-y.
Moi, Emiliano Martinez, il est surcoté. Pour moi, c'est le Tim Krul de l'Argentine. Je vous explique pourquoi. Si tu lui retires les tirs au but, là, dans un match, Emiliano Martinez est très ordinaire. Pour moi, il est quatrième, peut-être même plus bas que ça dans les tournois. Là. Parce que, je m'excuse, mais au niveau d'efficacité de ses arrêts, au niveau des arrêts décisifs, à part son arrêt en finale contre Kolo Muani, je veux dire, il a pas été extraordinaire.
L'arrêt contre Kolo Muani, les arrêts dans le penalty, c'est important. Hein?
Je sais, mais sauf que les penalties, j'allais dire, il y a une question de chance, puis il y a une question aussi de jouer dans la tête. C'est ça sa force. C'est comme Tim Krul. Tim Krul, ça n'a jamais été un grand gardien de but, mais quand il s'agissait des tirs au but, il était sensationnel. C'est pour ça que je dis que c'est pareil.
Ben, c'est parce que dans une Coupe du Monde où est-ce qu'il y a souvent des matchs qui se déroulent en pénalty, c'est là que le gardien est le plus important. Là. C'est là que c'est lui qui fait la différence. Dans le reste d'un match, c'est rare que ton gardien, c'est le joueur le plus important. C'est sûr que là, s'il ne fait pas des arrêts faciles, il peut être un grand facteur, là, mais... Là où tu en as plus besoin dans une Coupe du Monde, ton gardien, c'est à la séance de tir au but. Là. Puis Martinez, c'était fou comment il jouait mentalement dans la tête de ses adversaires. Là. J'ai vu des vidéos, là, il leur parle, il les fixe. Juste avant qu'ils tirent, il leur crie quelque chose. Fait que ça, mentalement, là, il était absolument trop fort, le Martinez.
Ouais. Mais,
d'ailleurs,
vas-y, Tom.
Non, finis ton point.
Mais j'allais dire, par contre, ça aurait été intéressant que si la demi-finale entre la Croatie et l'Argentine se rendait au tir au but, là, ça aurait été intéressant parce que les Croates sont extrêmement forts sur le tir au but.
C'est sensationnel,
mais c'est jamais arrivé. Mais vas-y, Tom.
Mais ouais, d'ailleurs, le comportement d'Emi Martinez, ça fait beaucoup jaser, notamment lors des célébrations, puis d'apparaître en Argentine et tout. Vous en pensez quoi de ça?
Ben, moi, écoute, ça, c'est bizarre à dire, mais ça fait du bien pour le monde du sport d'avoir un bad guy, disons-le. Parce que, c'est à mon avis, c'est ça qui fait attirer les gens. Puis écoute, ça met tellement de visibilité sur un joueur ou sur un sport que t'en as besoin des fois d'avoir des mauvaises personnes. Puis écoute, est-ce que son comportement est exemplaire? Non. Loin de là, mais ça fait du bien d'avoir des gens qui attirent un peu l'attention sur non seulement l'équipe, mais sur le sport en général. Mais écoute, ça dépend, c'est parce que moi, j'ai pas une vision très conservatrice du sport. Là. Donc, ça dépend.
Ouais, mais...
Vas-y.
Moi, honnêtement, sa célébration avec le gant d'or sur la scène, juste devant le gars du 14, j'ai trouvé ça du bonbon. Là. C'était
hilarant.
La face du gars du 14, c'était waouh, j'ai adoré. Puis pour risquer de chambrer l'autre équipe et tout, tu sais, j'ai des amis supporters français, Antoine, qui déteste Martinez pour ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, en narguer Mbappé notamment. Là. Mais je pense qu'honnêtement.
Mbappé le méritait un peu, moi, je trouve.
Ouais, Mbappé, non seulement a chambré l'Amérique du Sud, le soccer sud-américain là, avant le match contre l'Argentine, là, il aurait peut-être Ben, il a dit, genre, ils sont pas au même niveau que... Ben, il l'a pas chambré, là, mais il a dit ils sont pas au même niveau que le soccer européen, c'est moins développé et tout. Finalement, ben, ils perdent la Coupe du Monde. Mais ouais, c'est ça. Dans le fond, il disait que le soccer européen était plus développé que sud-américain puis qu'ils jouaient moins des gros matchs qu'en Europe, ce qui est peut-être un peu vrai, mais quand même, dans la Coupe du Monde, tout le monde est en fait, non, ils jouent des matchs amicaux contre les équipes européennes.
Ça n'a pas tant rapport. C'est pas
il
n'y
a,
quand...
a pas de... Ouais.
Moi, je trouve que le point de Kylian Mbappé n'a aucun sens parce que dis-toi qu'il y a une équipe qui a plus de titres dans l'histoire de la Coupe du Monde, c'est une équipe sud-américaine. Donc, je ne sais pas pourquoi il me dit ça, là, mais c'est n'importe quoi. Puis, tu sais, dis-toi que là, tu as l'Argentine qui a 3, tu as l'Uruguay qui en a 2 aussi. Ouais. J'allais dire.
Si on regarde dans les années 2000. Comment?
L'Uruguay n'a pas gagné depuis 1950.
Ouais, mais quand même, il faut le mentionner quand même.
Puis, à part la Coupe du Monde actuelle de 2022, c'était depuis le 2002 qu'aucune équipe sud-américaine n'avait gagné le. La Coupe du Monde. Donc, tu sais, il y a un point quand même un peu là, mais ça reste que le football sud-américain, là, genre au niveau national, ben au niveau des compétitions internationales, ils sont très forts encore. Le Brésil avait une des meilleures équipes du tournoi, puis l'Argentine a gagné la Coupe du Monde. Fait que voilà.
Mais bon, bref.
Ouais, c'est ça, vas-y.
Parce que moi, il faut que je retourne à mon 11, là, guys, là, quand même. Là.
Excuse-moi.
on a dévié un peu là, du sujet, là, mais.
Ouais.
Bon.
Pour dire Yacine Bounou.
Ouais, c'est Yacine Bounou, bref. Yacine Bounou, Gvardiol à droite. Moi, c'est un 4-3-3 classique, là. 4-3-3 facile classique, là. Bon, bref. J'ai Upamecano qui pour moi est excellent, a été nettement supérieur à Varane. Puis un petit point aussi parce que j'étais pas là dans l'épisode, moi je m'excuse, mais avec la performance que Varane a eue contre l'Argentine, j'aurais titularisé Ibrahima Konaté à sa place, mais ça c'est un débat, ça c'est un autre débat, bref.
Mais ça paraissait qu'il était malade puis pas en santé, le Varane.
C'est ça. Je suis d'accord avec toi aussi sur Romain Saïs. Moi, Romain Saïs aussi, je l'avais mis dans mon. Je l'ai mis aussi dans mon dans mon équipe type du tournoi. À gauche, je vais aller avec Lucas Hernandez. Lucas Hernandez en remplaçant Théo Hernandez, pardon. Merci. Ouais. Excuse-moi.
Lucas a joué genre 20 minutes.
Ouais, ça. Mais bref, en remplacement de son frère Lucas Hernandez, était excellent dans le tournoi. Bon, sauf peut-être sa finale qui a un peu manqué, mais il y a beaucoup de joueurs d'équipe de France qui ont manqué. Leur tournoi en général. Au milieu de terrain.
Tu dis qu'ils ont manqué leur tournoi.
Non, qui a manqué la finale. Il y en a beaucoup, là, dont Ousmane Dembélé, que ça on en parlera une autre fois. Pour mon milieu de terrain, je vais aller avec Ounaï aussi, qui a été excellent, surtout contre l'Espagne. Là. Sa performance contre l'Espagne avait été sensationnelle, au point que Luis Enrique avait dit que je ne sais pas d'où ce gars-là il sort, mais il était magnifique. Puis, écoute, Faut que je le mentionne. Il n'y a pas le choix d'avoir sa place dans mon 11. Mais Luka Modrić a été sensationnel dans ce tournoi-là. À 37 ans, je m'excuse, mais Luka Modrić, pour moi, est un des... Je vais aller quand même faire là-dessus. Pour moi, Luka Modrić est un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps, au point où il en est rendu dans sa carrière. C'est un ballon d'or. C'est avoir la longévité dans Luka Modrić. Il a joué des 120 minutes. Là. Il joue un match de 120 minutes. Je pense que c'était contre le Brésil, si je ne me trompe pas. Ouais. 120 minutes à 37 ans, c'est fou, là. Puis surtout.
Ah, puis il a marqué son péno.
Ouais, il a marqué son péno. Puis tu sais, on a parlé de Lionel Messi, mais Lionel Messi, c'est un attaquant, c'est pas un milieu de terrain. Luka Modrić, c'est un milieu de terrain. Il fait des zigzags, il court, là. Il parcourt des kilomètres il y en a parcours. Ce serait intéressant de voir la statistique de Luka Modrić dans le tournoi, surtout au niveau du kilométrage. Mais, mais il a été sensationnel, Luka Modrić, donc il mérite d'avoir sa place dans mon 11. Bon, on l'a mentionné, Antoine Griezmann, qui est excellent dans ce tournoi-là. En fait, moi, je le mets au milieu de terrain parce qu'il était au milieu de terrain.
Il était milieu central.
Milieu central, récupérateur, créateur
défensif même.
De l'équipe de France. Malheureusement, il y a eu une finale un petit peu plus difficile comparée à celle de 2018. Mais écoute, ça ressemblait pas mal à la performance générale de l'équipe de France qui était clairement décimée. Est clairement fatigué lors de ce tournoi-là, là, surtout à la fin. Puis écoute, pour les trois attaquants, bon, ben, sans surprise, il y a Messi à gauche, Messi à droite, Mbappé à gauche. Puis je vais aller, Ouais, je vais aller avec Olivier Giroud en pointe. Ouais. Oh. Olivier Giroud a eu un bon tournoi en général.
Tournoi, c'est vrai. Okay.
Il a eu un excellent tournoi, mais il a été blessé. Ben, il était blessé clairement. Là. C'est pour ça qu'il est sorti à la 40e minute. Là. Genre, je suis pas mal certain que si Giroud était en santé, il aurait continué à jouer jusqu'à au moins la 70e minute, si ce n'est pas plus dans ce match-là. Il avait les capacités de déstabiliser la défensive argentine, mais malheureusement, dû à une blessure au genou, ben, il a été remplacé à 40e minute par Marcus Thuram. Ben, ça ressemble à ça, mon 11 type du tournoi. Mais écoute, ça se ressemble beaucoup, nos 11, je trouve. Là. Il y a des joueurs qui ressortent plus. Bon, c'est difficile de mettre Mbappé ou Messi. En fait, c'est impossible de mettre Mbappé ou Messi hors du 11. Mais t'as des joueurs qui ont été sélectionnés dans ce tournoi-là. Puis écoute, c'est ça que j'aime dans cette Coupe du Monde-là, parce que ça nous permet de découvrir d'autres joueurs qui, normalement, on les connaît, mais c'est seulement les fanatiques de soccer qui savent qui sont ces joueurs-là.
Comment ils sont bons, ouais.
Fait que là, c'est fun. Je trouve ça. Il y a des joueurs qui sont faits aussi pour la Coupe du Monde. Je ne sais pas si Yacine Bounou, c'est un joueur qui va réussir à avoir une bonne fin de carrière là, après la Coupe du Monde. Ça risque d'être intéressant, mais il y a eu d'autres joueurs également qui ont été sélectionnés dans cette Coupe du Monde-là. Puis chapeau à eux, ça a été un excellent tournoi en général. Parce que, à mon avis.
Déjà 31 ans pour Bounou, ça va être à surveiller le reste de sa carrière, effectivement. Puis là, messieurs, c'est la vraie foi. Là. On dit adieu à cette Coupe du Monde-là. Et on a fait un aux premières loges complet sur toute la Coupe du Monde là-dessus. Et là, on voulait faire juste un petit segment dans cet épisode-là. On a fait 37 minutes finalement, mais écoute, il faut ce qu'il faut. Donc voilà, la Coupe du Monde, c'est maintenant véritablement derrière nous. Puis on la remercie de nous avoir donné tout ce beau spectacle-là. Et on enchaîne avec le CF Montréal là, très rapidement parce qu'on veut se laisser du temps pour le débat quand même. Mais ouais, le CF Montréal, grosse annonce il y a 2-3 jours environ. Hernan Losada, un entraîneur argentin justement, mais donc l'Argentine est partout ces temps-ci, qui devient l'entraîneur-chef du CF Montréal, remplace Wilfried Nancy qui est maintenant au Club Columbus. Hernan Losada, les boys, il était au DC United en 2021-2022. C'était 17 victoires, 19 défaites et 5 nuls en tout durant son parcours avec DC United. 40 ans, donc un très jeune entraîneur. Et aussi en 2019, il avait commencé son expérience de coaching avec un club de Division 2 belge. Et il a remporté le championnat avec ce club-là. Et donc, quand même, de bons accomplissements là, niveau entraîneur, surtout en Belgique. Et un peu de français en lui également, à cause qu'il a vécu en Belgique. Il a été joueur aussi en Belgique et ailleurs. Donc, vos impressions sur cette nouvelle embauche pour le CF, d'où?
Écoute, c'est très intéressant comme choix de la part du CF Montréal. Le plus gros défi pour lui, à mon avis, c'est qu'il va avoir une équipe qui est complètement différente de celle de Wilfried Nancy. Beaucoup de joueurs qui sont partis, surtout depuis les derniers mois, là, quand on parle quand même des joueurs hyper importants, là, des Victor Wanyama, peut-être Alistair Johnston qui vient de partir, également Ismaël Koné. Je ne sais pas si Kamal Muller va être là l'an prochain. À date, oui, pour l'instant, il va être de retour. Mais ça reste intéressant pour la suite des choses. Mais en tout cas, tu as un CF avec un visage complètement différent. Puis, il y a eu quand même quelques petits problèmes du côté de DC United l'an dernier, surtout au niveau du vestiaire. Il n'y avait pas son vestiaire, c'était quand même chaud. Puis, on connaît la réputation du côté de CF Montréal, surtout avec Joe Saputo qui n'a pas peur d'aller dans le vestiaire pour parler à certains joueurs, qui met peut-être trop son nez dans le vestiaire de l'équipe, ce qui est un peu dangereux, à mon avis, là, mais. En même temps, c'est son équipe, donc il peut faire ce qu'il veut avec ça. Mais en tout cas, il y a des gros défis. Oui, il y a quand même des accomplissements, pour surtout dans sa jeune carrière d'entraîneur. J'allais dire 40 ans, c'est extrêmement jeune dans la vie en général. Puis surtout comme entraîneur, c'est extrêmement jeune, j'allais dire. Mais il a quand même réussi à monter une équipe de division 2 belge vers la première division belge. Ça, c'est déjà un accomplissement en soi. Puis très hâte de voir qu'est-ce qu'il va apporter à une équipe du CF qui va avoir un visage très différent de l'an passé. Puis surtout, Wilfried Nancy avait cette capacité de rassembler ses joueurs, une capacité de leur parler. Surtout, il y avait une capacité, je trouvais, c'est un excellent communicateur, puis je ne sais pas si Losada a cette grande cette capacité-là d'être un excellent communicateur, mais écoute, tu as lu de...
Je ne le connaissais pas assez, on va voir durant la saison, mais Tom, et toi, qu'est-ce que tu en penses?
Ben écoute, ça reste à voir, honnêtement, je ne connaissais pas vraiment. Par contre, je ne sais pas si tu as vu les gars, ses méthodes pas ses méthodes d'entraînement, mais son régime un peu. Qui a fait beaucoup jaser. Mm-hmm. Vous en pensez quoi de ça?
Ben, il est considéré comme un entraîneur dur. Mm-hmm. Puis je pense que c'est ça. Il faisait peser ses joueurs à chaque deux semaines ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Là. Puis ça a l'air que je pense que c'est Renard qui a dit que ça irait plus à une fois ou trois mois, quelque chose de même. Là. Donc peut-être que Renard, Gervais vont calmer ça un peu. Ils vont juste garder le meilleur de lui. Là. Donc,
mais c'est. Si je peux rajouter quelque chose au niveau du poids, c'est une méthode que moi j'ai vue assez régulièrement du côté de l'Europe. Le Pep Guardiola, qui est considéré comme un des meilleurs entraîneurs au monde, a un poids type pour chacun de ses joueurs. Là, parce que Pep Guardiola croit que plus. Surtout, si un joueur a un poids, mettons son poids santé, par exemple, je ne sais pas, mettons, tel joueur doit peser, 150 livres. Mettons. Mm-hmm. Ça va lui permettre d'être plus agile, ça va lui permettre d'avoir plus
d'endurance, plus de cardio. Meilleur.
Puis surtout, avec le style de jeu que Manchester City ont, c'est important d'être extrêmement agile. Puis t'es au soccer, faut pas que tu sois lourd. Parce que de la seconde que t'es lourd, là, ça commence à être compliqué. Puis t'es plus lent, tes gestes techniques sont ralentis. Bref, le niveau du poids, c'est pas quelque chose de nouveau. Oui, des fois, il y en a que ça peut pas à tout le monde. Parce qu'il y en a qui sont un peu plus tranquilles, un peu plus. Qui sont un peu plus légers par rapport à cette méthode-là. Mais c'est pas quelque chose pour moi qui est extrêmement dangereuse. Genre, c'est pas une méthode qui est hyper dangereuse.
C'est pas dangereux, non? Mm-hmm. C'est pas dangereux, c'est juste à quel point on veut déranger les joueurs qui voudraient, tu sais, avoir une liberté de vivre un peu comme ils l'entendent, puis tu sais, de tout le temps devoir être au poids que son entraîneur veut. Ça, c'est une question que j'ai de la misère à répondre parce que ça, c'est entre les joueurs et le coach et l'organisation de savoir c'est quoi la démarche à prendre de ce côté-là. Mais je pense que tu as raison que c'est avoir un poids optimal, ça permet d'être à son meilleur. Ça, c'est certain. Mais au niveau des méthodes à employer, là, je suis pas le spécialiste qui va dire c'est quoi la bonne méthode. Mm-hmm. Mais si elle fonctionne, j'ai aucun problème avec ça. Puis si les joueurs sont tous corrects avec ça, puis ça crée pas de difficultés dans le vestiaire, why not? Fait que c'est ça. Puis il est considéré comme un entraîneur assez dur, puis assez assez offensif aussi. Ça, j'ai bien aimé. Il a dit que lui, il était un milieu offensif quand il jouait. Et puis donc, il va tactiquement être orienté plus vers l'avant, vers marquer des buts. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. Ça vous plaît à vous aussi, j'imagine, Tom?
Oui, honnêtement, ça va pas vraiment changer entre la philosophie de Nancy et la philosophie de Losada. C'est deux entraîneurs qui sont très mindés sur l'offensive. Donc c'est positif. C'est pas pour les joueurs, tu ne changes pas complètement de philosophie et de tactique et tout. Donc c'est bon. C'est sûr que ça donne du spectacle. Puis ça reste avec la philosophie du club. Quand Olivier Renard est arrivé, je pense que la première fois qu'il avait dit, c'est que j'aime mieux avoir une nulle de 3-3 qu'une nulle de 0-0.
Exactement.
Donc,
tu es d'accord avec ça?
Ouais, écoute, je suis 100% d'accord avec cette philosophie. Et bien sûr qu'il y a des trous. Je ne crois pas avec les apports de Johnson, Conley, Mihailovic, il y a des gros trous à remplir pour le CF. Mais bon, ça reste à voir ce qui va se passer. Ça commence quand? Mars?
Fin février, je pense, la saison.
Début mars, quelque chose comme ça.
Ben, c'est le début de la saison, en tout cas.
Ouais. Donc, Doute, es-tu en accord avec ça? Football, ben, j'imagine que oui, football offensif. Puis je ne sais pas aussi si on va avoir la même idéologie de construire de l'arrière avec de ne pas dégager le ballon. Les gardiens avec Sunancy voulaient justement à construire dès l'arrière et progresser dans le jeu avec un collectif, pas dégager le ballon à tout le temps, ce qui rend le soccer plus beau, à mon avis. Est-ce que tu aimerais que le Zada garde le même format de jeu?
Mais écoute, moi je suis du même avis que vous là-dessus, que c'est meilleur, c'est vraiment plus encourageant d'avoir une équipe qui est plus axée sur l'offensive. Mais cependant, moi, je fais partie de ces fameuses écoles cette école de pensée qui pense que la meilleure façon d'opérer, c'est vraiment avec les moyens que tu as avec ton équipe. Dans le sens que, genre, si tu vois, faut vraiment que tu t'ajustes avec les capacités de tes joueurs. Puis si tu juges que tu es capable d'avoir un style de jeu plus offensif avec les moyens que tu as, ben, tu peux te permettre de te projeter un peu plus vers l'avant. Mais si peut-être qu'un ancien à l'époque se disait que, peut-être que ce serait mieux de construire en commençant avec ma défense et mon gardien de but au lieu d'aller vers l'avant parce que j'ai pas les moyens pour me permettre d'aller vers l'offensive. Donc, c'est vraiment une question de c'est quoi les moyens de ton équipe. Moi, je suis plus de cet avis-là qui est plus offensif ou défensif.
Mais c'est très, très intéressant comme point de vue. Mais Nancy, c'était pas qu'il voulait pas à se projeter vers l'avant. C'est juste qu'il aimait construire à partir de derrière, tu sais, Pantémis, au lieu de dégager le ballon vers l'avant quand il le reçoit, puis d'avoir un gardien qui était moins à l'aise, balle au pied, peut-être un peu comme Breza. Il aimait mieux construire de l'arrière puis progresser en se projetant vers l'avant par la suite. Il faisait très bien, notamment avec des joueurs comme Mihailovic au milieu. Mais ça va être intéressant de voir le Zada, qu'est-ce qu'il va employer comme technique. Puis rapidement, les gars, sur les acquisitions au niveau des joueurs, il y a Aaron Herrera, c'est ça son nom, exactement. Le latéral droit, si je ne me trompe pas, qui remplace en fait la position de Johnston, qui est parti. Si je ne me trompe pas, c'est latéral droit. En fait, c'est un échange au Real Salt Lake. 500 millions, pas 500 millions, 500 000, excusez-moi, millions, on va trop loin. Hein. 500 000 en allocation générale au total et un choix de première ronde et aussi une place de joueur étranger en 2023. Donc, c'est quand même beaucoup d'éléments pour ce latéral qui a quand même une saison correcte, je pense, 3 passes décisives, 25 matchs, si je ne m'abuse. 21 parties. Bref, attends, je ne suis pas sûr d'avoir les bons chiffres sous les yeux, mais bref. Quand même une saison décente l'an passé du côté des Rats. Je pense pas qu'il va être du même niveau que Johnston, ceci dit, là, mais ça va être intéressant de voir.
Ben écoute, moi, si je peux me rajouter là-dessus, je pense que la question d'Aaron Herrera va permettre d'oublier un peu, entre guillemets, Alistair Johnson, malgré que ça va être extrêmement difficile d'oublier Alistair Johnson, surtout au niveau offensif. Mais j'ai les statistiques devant moi, c'est un but et 19 passes décisives avec
MLS.
MLS avec Real, avec les Real Salt Lake. C'est pas des mauvaises statistiques, loin de là, surtout pour un défenseur latéral qui surtout quand t'as beaucoup de passes décisives. C'est très bon. Mais c'est en carrière, en passant.
L'an passé, là, j'ai les chiffres de l'an passé. 25 ans, 27 matchs en 2022 avec Salt Lake et 3 mentions d'aide. Donc, c'est assez décent. C'est bien. Puis, un défenseur latéral aussi, c'est sûr qu'on aime ça quand il apporte de l'offensive, mais ça reste que c'est un défenseur avant tout. Donc voilà. Autre chose à rajouter, Tom ou Dou, sur le CF, où on passe à notre gros débat?
On passe au débat.
Parfait. Il était temps parce qu'on entre, on entre à 50 minutes. Mais voilà, le gros segment du show est enfin arrivé. Le débat, qui est le GOAT? On va commencer avec Dou. Parce que moi et Tom, on diffère de toi niveau opinion de qui est le meilleur joueur de tous les temps. Mais voilà, le débat est lancé. Dou, ton choix, c'est Pelé. Explique-nous pourquoi le grand Brésilien Pelé.
Écoute, je crois que Lionel Messi est un des meilleurs de tous les temps. Bon, je ne suis pas là pour manquer de respect à Lionel Messi, loin de là. C'est un grand joueur. Puis écoute, on est choyé de l'avoir vu jouer aussi longtemps que les dernières années, en tout cas. Mais bref, pour revenir, mon choix pour le meilleur joueur de tous les temps, qui est un choix purement subjectif, mesdames et messieurs, ça, il faut.
Ça va être subjectif en ce moment.
Il faut rentrer ça dans nos têtes. C'est purement subjectif. Ouais. Subjectif, mais Pour moi, c'est Pelé, le roi Pelé. Écoute, non seulement c'est un attaquant qui avait des qualités incroyables, extrêmement bon au duel aérien, alors que c'était pas un joueur au grand gabarit, seulement 5 et 8, 1m73, c'est pas du même type qu'un Zlatan Ibrahimovic ou qu'un Marco Van Basten ou même Cristiano Ronaldo qui sont des joueurs extrêmement solides au niveau du duel aérien. Même tu peux rentrer Ruud van Nistelrooy aussi, qui est un attaquant que j'avais beaucoup quand j'étais un peu plus jeune. Mais pour revenir à Roy Pelé, j'allais dire 3 Coupes du Monde, ça c'est quelque chose que tu verras plus jamais à mon avis. Kylian Mbappé était passé près de remporter 2 Coupes du Monde consécutives. Qu'est-ce qui est un fait d'armes qui n'a pas été réalisé depuis le Roy Pelé au début des années 60? Mais quand même, 3 Coupes du Monde, une Coupe du Monde à 17 ans alors qu'il était décisif, alors qu'il faut se rappeler que 4 ans auparavant, le Brésil avait été humilié en 1954, alors qu'il venait de perdre la finale de la Coupe du Monde de 1954 face à l'Uruguay.
C'est en 1950.
De quoi tu parles?
C'est 54. La finale contre l'Uruguay, c'est en 1950.
C'est 1954,
c'était l'Allemagne.
Ah, merci. Bon, 1950, okay, qui est 8 heures.
Okay, ouais, je me rappelle, j'étais là.
Ouais, c'est moi aussi, c'était blague à part. Quand même, avait eu des déceptions, et notamment cette fameuse humiliation en 1950 où ils avaient perdu à la maison contre l'Uruguay, qui est le pays, qui est le petit pays en dessous du Brésil. Ça a été extrêmement difficile. Puis écoute, Pelé qui arrive à 17 ans, qui marque beaucoup de buts, qui est décisif et qui gagne à ce jeune âge-là, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Puis écoute, par exemple, vous allez rentrer avec les questions, avec les arguments de Ballon d'Or et tout. Je m'excuse, mais le Ballon d'Or, pour moi, n'est pas tant un grand facteur que ça, parce que Pelé n'a jamais joué en Europe. Pelé était clairement le meilleur joueur au monde durant sa carrière, puis ne pas avoir de Ballon d'Or, c'est juste ridicule de ne pas avoir donné Ballon d'Or à Pelé. Là. Pour moi, cet argument-là...
Jusqu'en 1995, c'était juste les joueurs européens qui pouvaient gagner le Ballon d'Or.
C'est ça. Ça n'a pas de sens. Diego Maradona n'a jamais remporté aussi de Ballon d'Or. Il y a quelque chose qui cloche clairement avec ce trophée-là. Puis comme tu as dit, c'était jusqu'en 1995. Puis également, le gros argument qui me dit que Pelé est le meilleur de tous les temps, c'est non seulement son apport au niveau international, puis surtout le côté leader que Lionel Messi a maintenant, mais que ça lui a pris des années à développer. Ça, c'est plus une vision nord-américaine, je trouve, là, de la chose, là, de vraiment aller avec la capacité d'être clutch, d'être décisif au moment important. Bon, vous allez me dire c'est une vision très nord-américaine, mais moi, je suis d'avis que genre les joueurs qui me font vibrer, c'est surtout les joueurs qui sont décisifs au moment important. Les Pelé, les Maradona, Messi maintenant, Cristiano Ronaldo à son apogée, Didier Drogba aussi qui avait cette capacité-là de pouvoir être décisif dans les grands matchs. Pelé avait ça. Puis aussi, moi je trouve, OK, puis ça, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi là-dessus, mais Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont ce gros avantage-là d'avoir été protégés par leur équipe, par les règlements. Puis c'était malheureusement pas le cas à l'époque de Pelé ou de Maradona qui les règlements étaient un petit peu moins. Était un petit peu moins était moins là présent, surtout à l'époque de Pelé, où je crois qu'il n'y avait pas encore la fameuse règle du hors-jeu qui n'était pas encore présente. Mais il manque de. C'est ça, il n'y avait pas de protection autour de Pelé. Il y avait des joueurs qui lui tiraient le maillot, lui tiraient au point des boxeurs.
Genre Maurice Richard à Montréal avec les
Canadiens. C'était rude, le soccer, surtout à l'époque de Pelé. Là, genre, je sais pas si. Par exemple, ça, je m'imaginais. Imaginez-vous si Neymar jouait dans les années 60. Ce serait incroyable. Là. Genre, bref. Puis, écoute, les meilleurs. Puis aussi, l'argument aussi du fait que, genre, Pelé n'a jamais joué en Europe, nanana. Je pense pas que c'est un argument qui est tant valable que ça, parce que la Ligue brésilienne était vraiment très, très, très relevée dans les années 60 où Pelé jouait. Il y avait des grands joueurs qui jouaient dans les années 60 au Brésil. Faut le mentionner. Puis écoute, c'est pas pour rien. L'équipe du Brésil a remporté trois Coupes du Monde sur les 4 éditions que Pelé était joueur, puis surtout et surtout était le grand joueur de cette équipe du Brésil. La seule Coupe du Monde qui n'a pas gagné, qui durant l'époque Pelé, qui était en 1966, parce que Pelé s'était blessé durant cette Coupe du Monde-là. Donc, je ne sais même pas si là, l'Angleterre avait les capacités pour battre Pelé à 100%. Mais bref, pour moi, Pelé est encore le plus grand joueur de tous les temps. Trois Coupes du Monde, décisif, était capable de tout faire. Puis écoute, avec cette grande capacité-là d'être leader puis de décider d'un grand moment, qu'est-ce qui pour moi était un peu moins le cas de Lionel Messi jusqu'à maintenant. Ça lui a pris beaucoup de temps à Lionel Messi de développer cette capacité-là d'être décisif d'un moment porteur. Il y a des joueurs qui sont innés avec ça, il y a des athlètes qui sont innés avec comme d'être bons au moment important, les Mohamed Ali, les Usain Bolt, les Michael Phelps, les Michael Jordan, Kobe Bryant, bref, il y a des athlètes qui genre, ont cette capacité-là d'être décisif d'un moment important. Même je pourrais rajouter Sidney Crosby ou Wayne Gretzky, mais bref, ça c'est dans un autre débat. Mais c'est ça, bref, pour finir là-dessus, pour moi, Pelé est encore le plus grand joueur de tous les temps. Et Lionel Messi, pour moi, est le deuxième meilleur joueur de tous les temps à l'heure actuelle. Grâce à sa victoire à la Coupe du Monde, pour moi, a officiellement dépassé Diego Maradona, qui est un grand joueur. Puis écoute, moi, c'est parce que j'ai eu la chance aussi, puis je sais pas vos pères ont quel âge, mais moi, mon père est dans la soixantaine. Puis mon père a eu la chance de voir jouer Pelé, et surtout Maradona à son apogée, parce qu'ils ont à peu près le même âge. Mais paix à son âme, à Maradona, qui malheureusement est décédé depuis 2 ans. Mais mon père, qui est dans la soixantaine, a eu la chance de voir jouer Pelé, surtout dans sa dernière Coupe du Monde de 1970. Et surtout la chance de voir Maradona son prime. Puis la façon que les gens me l'ont raconté et tout, c'est Pelé dans une catégorie à part de joueur. Là. Genre, c'est encore plus grand que Lionel Messi. Et en plus, il n'y avait pas la visibilité que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux et à l'Internet.
Écoute, c'est un discours...
Vibrant témoignage.
Vibrant témoignage, très, très bien articulé, très bien construit, d'où je dois te donner d'excellents arguments. Tom, je veux savoir, toi pour toi, c'est Messi, moi aussi, je dois le dire.
Merci.
Vas-y, qu'est-ce que tu répliques à ce très bon discours de Monsieur Ibrahim?
Ben, écoute, avant la Coupe du Monde, j'aurais dit que Pelé Maradona est en avant de Messi. Par contre, cette Coupe du Monde-là, ça a juste confirmé le fait que Messi est gold. Écoute, il a complété le soccer. Il a tout fait. Il a Coupe du Monde, Copa América, finalissima. Juste au niveau international. Niveau des clubs, Ligue 1, as-tu gagné la Coupe de France? Il me semble que oui. Copa del Rey, la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs. Il a tout fait. Ballon d'or. Oui, je suis d'accord que le ballon d'or est avec. N'est peut-être pas le meilleur argument, puisque avant 1995, les joueurs sud-américains ne pouvaient pas gagner. Mais Pelé était un excellent joueur. Par contre, il n'y a personne qui. Tu n'as pas joué. Il n'y a presque aucune archive sur YouTube, Internet, en fait, qui existe, archives vidéo. La seule façon qu'on a de se rappeler de lui, c'est des histoires qui sont probablement exagérées avec le temps un peu.
Parce que lui-même exagère ses stats, ça, faut le dire.
Oui, oui. Mon père, je sais pas, il avait quel âge quand il a vu Messi à Coupe du Monde de 1970. Mais quand on est jeune, on a tendance à rendre ces joueurs-là, en fait, des joueurs qu'on regarde quand on est jeune, plus grands qu'ils sont vraiment. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, Alex Kovalev, c'est mon joueur préféré dans ma tête, c'est meilleur que Crosby.
Mais écoute, pour mon père, là, maintenant, il va avoir 62 ans dans moins de 2 semaines, mais j'allais dire, le joueur préféré à mon père, c'était Diego Maradona. Donc, c'était pas Pelé, mais bref, c'est juste qu'il y a eu la chance. Tu sais, j'allais dire, t'as cette chance-là de pouvoir voir certains joueurs. Puis, tu sais, nous autres, malheureusement, tu sais, la raison pourquoi je dis ça, c'est qu'on a vu Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, mais on n'a pas vu beaucoup d'autres grands joueurs dans notre vie. Donc, c'est là que ça devient difficile un peu Là, c'est des bas-là qui deviennent extra-générationnels.
Ouais, mais c'est...
On a Messi, on a Ronaldo. Fait que, tu sais, on peut pas se plaindre tant que ça de pas avoir vu de
grands joueurs. Ouais, mais ces autres grands joueurs-là, Maradona, je sais pas, par exemple, Van Basten, Cruyff, il y a plus de vidéos. C'est plus facile de voir leur génie, tu sais. Comparativement à Pelé qui jouait, qui a passé sa carrière à Sao Paulo. Donc, on peut pas vraiment quantifier ça. Vraiment, les stats de cette époque-là, les ligues sud-américaines à cette époque-là, il y a personne qui a vraiment quantifié. Ça fait un peu penser au Negro League Baseball. Il y a plusieurs grands joueurs qui proviennent de ces ligues-là, mais à l'époque, les années 1920-1930, c'est pas très organisé. Quantifier les stats de cette époque-là, c'est presque une tâche impossible. Donc, c'est un peu le même feeling que j'ai avec Pelé. Donc, c'est un grand joueur, assurément, de ce qu'on a vu, mais le meilleur de tous les temps, je suis pas sûr. Justement, parce que on se base sur des légendes.
Moi, je pense que c'est... en fait, j'ai les stats devant moi pour comparer, parce que je pense quand même intéressant d'apporter les stats. Selon les statistiques de tous les matchs officiels de Pelé, OK, du roi Pelé, parce que, selon ses dires, il y aurait, je pense, 1280 buts dans sa carrière. Il compterait des matchs amicaux puis des matchs où est-ce qu'il il a disputé des matchs, je pense, dans des... Dans l'armée ou je sais pas trop, mais ce ne sont pas des matchs officiels, même si Pelé dit que c'est son début qui compte. Selon les statistiques officielles, ce ne l'est pas. Donc, selon les matchs officiels de Pelé, ce serait 812 matchs au total en sa carrière, 757 buts, 343 passes pour un total de 0.93 au ratio. Ça, je pense, c'est le ratio de buts par match. Donc, c'est des statistiques ahurissantes, complètement folles. Avec le Brésil, 92 matchs, 77 buts, 43 passes. Et la majeure partie de sa carrière, il a disputé avec Santos FC au Brésil. 656 matchs, 643 buts. Donc, presque un but par match à Santos, c'est fou. 277 passes pour un ratio 0.98 buts par match. Donc, même si on enlève les fausses stats que lui, il dit, c'est... complètement d'accord que c'est du grand, c'est excellent, c'est phénoménal.
C'est grand génie.
Oui, exactement. Si on regarde Messi maintenant, Messi, 1003 matchs joués au total, donc près de 200 de plus que Pelé officiel, on rappelle. 793 buts, donc un peu plus que Pelé, mais en beaucoup plus de matchs, c'est vrai. 350 passes, donc encore une fois plus que Messi, que Pelé, mais avec, on rappelle, plus de grand nombre de matchs, pour 0.79 de buts par match. Donc, un ratio qui est quand même bien en deçà de Pelé. Mais pour moi, les statistiques, ce n'est pas ça qui est au cœur du débat, à mon avis.
Ouais, puis en même temps, tu regardes le calibre de jeu. Je pense que la Liga est pas mal plus élevée que la Ligue brésilienne des années 50-60.
Ben, c'est exactement là que j'allais. C'est que je suis d'accord avec Dou. Dou t'a dit tantôt que le soccer brésilien était plus proche du soccer européen avant. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Reste que le bassin de joueurs à gros talent était en Europe. Pourquoi est-ce que le Ballon d'Or était donné seulement en Europe? Pourquoi est-ce qu'on avait la Ligue des Champions seulement en Europe? Pourquoi est-ce que le plus grand nombre de grands joueurs étaient en Europe? C'était pour ça. C'était que le bassin de talent, même s'il était assez bon, là, je dis, il était assez bon au Brésil, mais en Europe, ça restait plus haut. Pelé n'est jamais allé tester ce niveau-là, pas que je lui reproche de ne pas l'avoir fait, mais c'est très difficile de le comparer à pour moi, à Messi ou à des joueurs qui ont passé toute leur carrière en Europe quand il a eu de très grandes statistiques en Amérique du Sud. Messi, c'est sûr que c'est pas la même chose de comparer le football à Monsieur américain des années 2010 aux années 60. Mais tu mets Messi qui joue en Argentine de toute sa carrière, il explose les stats de Pelé. C'est même pas. Je pense que c'est assez facile de dire ça. Fait que pour moi, le niveau statistique, là, c'est pas là qui est le cœur du débat. Puis il y a aussi dans le joueur en tant que tel, pour moi, Pelé, c'était un finisseur remarquable qui était capable de passer les défenses en étant souvent accroché et maltraité, mais qui réussit à s'en sortir. Un peu genre comme un Maurice Richard là, dans le temps des Canadiens. Je trouve que la comparaison est quand même cool à faire. Mais c'est ça, c'était un des meilleurs finisseurs qu'il y a jamais eu sur la planète. Messi, là où il est un plus grand joueur, à mon avis, c'est qu'il a non seulement la capacité de finition, mais il est un joueur qui crée des jeux de façon exceptionnelle, avec un positionnement toujours adéquat. Messi, là, les 5 premières minutes d'un match, il va les commencer, il va marcher, va regarder le positionnement de ses joueurs, va étudier où les joueurs se placent, va étudier où est-ce qu'il peut se positionner pour récupérer des ballons, être au meilleur endroit pour recevoir des passes et pour avoir le plus d'espace possible pour ensuite effectuer des jeux. Tout ça, la vision du jeu, le positionnement, sa qualité de passe, sa qualité de contrôle de ballon, à chaque pas, touche le ballon parfaitement, le garde à ses pieds, quasiment impossible de lui enlever. Tout ça fait en sorte qu'il avait tellement plus de capacité, pas tellement plus, mais qu'il était un joueur plus complet, avec plus de capacités autres que la finition, si je peux dire ça comme ça, que Pelé pour moi. Ce qui rend en sorte que, de par ce fait-là, c'est un joueur qui peut faire tellement de choses sur un terrain, plus qu'un Pelé, à mon avis, plus qu'un Cristiano Ronaldo. Et pour moi, ça fait en sorte que ça, c'est seulement niveau genre de ce qu'il est en tant que joueur, mais tu rajoutes le calibre auquel il a joué avec le Barça, les Ligues des Champions. Tu dis qu'il n'a pas été aussi décisif que Pelé dans les grands moments. Peut-être, ouais, peut-être, mais reste que dans les classicos avec le Real Madrid, Messi a quasiment toujours été extrêmement fort. En Ligue des Champions, il a marqué des buts en finale des Ligues des Champions également. Dans cette finale, puis cette Coupe du Monde-là, il a été sensationnel aussi. Donc, je pense qu'il se rattrape là-dessus, comme tu l'as dit. Fait que pour moi, surtout avec la victoire en Coupe du Monde 2022, et pour toutes les aptitudes que Messi possède, il est le plus grand joueur de tous les temps pour moi. Mais voilà.
Mais écoute, vous amenez vraiment des bons points, les gars. Je trouve que le débat est très intéressant, mais pour revenir à quelques petits points que tu mentionnais, la première, moi, écoute, pour l'aspect que Pelé n'a pas joué en Europe, moi, je trouve que c'est comme les gens qui disent « Ouais, mais Lionel Messi n'a jamais joué en Première Ligue » en disant que genre il ne va pas dominer la Première Ligue. Lionel Messi aurait pu dominer n'importe où, Pelé peut dominer n'importe où. Si tu regardes les statistiques de Pelé en Coupe du Monde dans sa carrière, c'est 14 matchs joués, 12 buts.
Messi, c'est...
Pelé, s'il jouait en Europe, là, il aurait autant dominé qu'au Brésil, parce que le niveau au Brésil était beaucoup plus fort qu'il l'est à l'heure actuelle. Tu ne peux pas vraiment comparer avec le niveau de l'Argentine aujourd'hui avec le niveau européen, que ça, c'est...
Ça, c'est vrai.
Mais peut-être que pour ma part, écoute...
Mais tu sais, il aurait autant dominé, je ne suis pas certain, moi. Il a jamais... Oui, il a performé en Coupe du Monde, mais la Coupe du Monde, c'est les meilleurs joueurs brésiliens qui l'entouraient. Tu sais, il jouait contre les meilleurs joueurs au monde, mais il était dans une équipe qui avait réunissait les meilleurs joueurs du Brésil aussi. Ouais, donc, tu sais, il n'a jamais joué dans aucune équipe européenne. Il n'a pas joué dans les grandes compétitions européennes. Il aurait bien performé, ça, je suis sûr et certain. Est-ce qu'il aurait eu les mêmes statistiques qu'à Santos? J'en doute.
Tu peux faire ce même débat-là à Lionel Messi aussi. Si, par exemple, Messi était sorti de sa zone de confort de Barcelone plus tôt dans sa carrière, est-ce qu'il aurait autant dominé? C'est la même question. C'est vraiment là. Moi, je trouve que c'est assez différent. C'est très débattable, je trouve, au niveau de... Est-ce que Pelé aurait pu dominer ailleurs qu'au Brésil? Est-ce qu'il aurait pu dominer ailleurs qu'en Coupe du Monde? Ça, on ne le sait pas parce que, malheureusement, on n'a jamais pu le voir de nos propres yeux, non seulement parce qu'on n'était pas nés, mais les gens qui étaient là aussi n'ont pas pu le voir. Mais moi, quand on me dit que Pelé qui dominait sur la plus grosse compétition planétaire, qu'on me dit qu'il ne serait pas capable de dominer en Europe. Moi, j'ai de la misère à croire ça parce que c'est un joueur. Puis, un autre fait important aussi qu'on a oublié de mentionner, vous savez que Pelé là, a été nommé c'est le plus grand athlète au niveau planétaire du 20e siècle. Genre, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dans une catégorie à part de joueurs. Il était en avant des Mohamed Ali, en avant des Michael Jordan, en avant de plein de grands athlètes du 20e siècle. Lionel Messi, je ne sais pas. Écoute, oui, le 20e siècle est encore très jeune, mais je ne sais pas si Lionel Messi, à la fin du 20e siècle, va être considéré comme le plus grand athlète du siècle. Ça, je ne sais pas. Mais Pelé, puis ça, c'est pas n'importe qui l'a nommé. Ça, c'est le fameux comité olympique international olympique qui l'a nommé comme le plus grand athlète du 20e siècle. Ça, c'est assez important de mentionner. Je pense que ça va plus loin que l'imaginaire des gens. Je pense pas que Pelé, c'est une légende. Je veux dire, à un moment donné, ça va beaucoup plus loin qu'une légende. Je veux dire, tu peux pas t'embarquer dans... Ça, c'est de la fausse croyance, à mon avis, mais bref, c'est assez intéressant.
Il y a des athlètes qui sont plus que des légendes. Pelé en est une. Messi va en être une pour moi aussi.
Messi va en être une aussi. Mais pour revenir à Lionel Messi... Je suis d'accord avec vous sur le fait que ce gars-là peut tout faire sur un terrain. À part défendre, mais ça, à un moment donné, Lionel Messi, c'est un attaquant, c'est pas un milieu de terrain. C'est pas un défenseur non plus. Donc, rendu là, tu peux pas tout lui demander aussi. Mais aussi, puis ça, je trouvais ça intéressant parce que mon cousin, qui était un grand fan de Cristiano Ronaldo quand on était plus jeune, au moment que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo étaient dans leur prime, moi, je lui répétais régulièrement que pour moi, Lionel Messi va avoir une meilleure fin de carrière que Cristiano Ronaldo parce que son jeu vieillit mieux. C'est juste, c'est pas compliqué. Il peut faire plus de choses que juste marquer des buts. Cristiano Ronaldo, malheureusement, pourquoi sa carrière va moins bien à l'heure actuelle, c'est que je m'en rappelle quelle blessure. Il y avait une blessure, en tout cas une blessure récurrente, Cristiano Ronaldo, sur son genou, qui fait en sorte qu'il perd de l'agilité puis il perd de la vitesse.
Ouais.
Il peut s'entraîner comme... Tu sais, on connaît Cristiano Ronaldo pour son mode de vie. Il a un mode de vie exemplaire.
Mais il est extrêmement en forme encore.
C'est ça. Mais ça ne change pas le fait que, comme malgré ce mode de vie-là exemplaire, son agilité et sa vitesse continuent à perdre. C'est normal avec l'âge aussi. Puis ça fait en sorte que, au moment de son. Tranquillement dans son prime, son style de jeu a complètement changé. Parce qu'il faut dire, surtout dans ses années à Manchester United et aussi au début de sa carrière au Real Madrid, c'est un dribbler, c'est un gars qui avait cette capacité-là, grâce à son agilité, sa vitesse, de déstabiliser des défenses. Il était capable de faire plein de choses, une détente sensationnelle. Pour moi, je pense que c'est peut-être le meilleur joueur au duel aérien de l'histoire du football, à mon avis.
Ronaldo aérien, c'est fou.
C'est incroyable.
C'est le roi des airs.
c'est le roi du duel aérien, comme on dit. Mais là-dessus aussi, qu'est-ce qui est assez, pour moi, par rapport à Cristiano Ronaldo, pourquoi Lionel Messi l'a devancé aussi? C'est parce que quand Cristiano Ronaldo a commencé à perdre cette agilité-là puis sa vitesse-là, son style de jeu a complètement changé. Il a passé d'un ailier extrêmement rapide, extrêmement agile, un excellent dribbleur, à être un attaquant de pointe puis être un tueur devant les cages. Parce que c'est littéralement ça que Cristiano Ronaldo est devenu dans son approche au Real Madrid. Puis il a marqué des buts de façon sensationnelle. Si on regarde son ratio de buts au Real Madrid dans sa carrière, c'est en 9 ans, c'est incroyable, les statistiques de Cristiano Ronaldo là, au Real Madrid. Mais bref, le style de jeu de Lionel Messi est très bien vieilli. Il est capable de créer le jeu. C'est devenu un meneur de jeu. C'est plus un attaquant. C'est un meneur de jeu qui est capable de tout faire. Puis écoute, sensationnel. Mais pour moi, ça reste que... Messi, c'est du génie. C'est pas compliqué, c'est du génie. C'est juste du génie, c'est du talent naturel. Pelé avait le talent naturel, mais Pelé avait une capacité. Pelé, pour moi, pourquoi je m'identifierais plus à Pelé qu'à Lionel Messi? Parce que Lionel Messi, si tu retires le génie de son jeu qui est sa force à lui, ben je ne sais pas s'il est capable de créer plus de choses que ça. Parce que c'est pas un gars qui parle beaucoup, c'est pas un gars qui a cette capacité. Mais
pourquoi est-ce que tu retirerais son génie, Messi? Ouais,
c'est ça aussi qui fait en sorte que ça devient compliqué. Puis bref, pour moi, son meilleur comparatif là, dans le monde du sport, là, c'est pas compliqué. Pour moi, c'est LeBron James. Puis je vous explique pourquoi. Parce que LeBron James, comme Messi, talent naturel, incroyable, un être humain hors norme, surtout au niveau physique, puis qui est capable de tout faire sur un terrain, comme Lionel Messi, capable d'être bon défensivement, offensivement, capable de tout faire, là, qu'on parle de rebond, une vision du jeu absolument extraordinaire, capable de tirer aussi, bon, c'est pas le meilleur tireur de tous les temps, mais bref, capable de tirer aussi, capable de créer, mais comme Lionel Messi a eu de la difficulté au niveau leadership, au niveau être capable d'être bon des moments importants. Ça lui a pris beaucoup de temps à développer ça. Ça a été la même chose avec Lionel Messi, surtout en Argentine, parce que si on parle de club, c'est différent. C'est différent. Mais aussi, Barcelone, il y a une carrière exemplaire, mais au niveau de sélection nationale, c'est là que ça a été extrêmement difficile pour Lionel Messi. Puis ça a été la même chose aussi pour LeBron James dans sa carrière dans l'NBA. Puis c'est deux joueurs qui ont avec des talents incroyables, des génies dans leur sport, mais qui ont eu beaucoup de difficultés à avoir ce facteur clutch, ce facteur X-facteur qui fait en sorte que tu es capable de prendre un match et de dire « OK, ça, c'est mon match, puis c'est moi qui vais faire caler mon équipe. » Les deux ont fini par réussir à avoir cette qualité-là dans leur carrière respective, mais ça a pris du temps. Ça a vraiment pris du temps. Puis il y a des joueurs que c'est comme ça. Il y a des joueurs qui peuvent avoir le talent du monde, mais que, genre, par exemple, Lionel Messi peut être extraordinaire pour les 80 premières minutes, mais que dans les 10 dernières minutes, ça devient compliqué pour lui. Bref, c'est plus le cas pour Lionel Messi, qui est un joueur extraordinaire. Mais c'est vraiment pour le facteur clutch, le facteur joueur sensationnel, le facteur 3 Coupes du Monde. Pour moi, c'est pour ça que Pelé est le meilleur joueur de tout le temps. Mais à la fin, je respecte la carrière de Lionel Messi qui est ce gars-là a littéralement tout gagné. Il a tout gagné. On n'a plus rien à dire sur Lionel Messi à l'heure actuelle. Plus rien à dire. Tout gagné.
Ouais. Mais tu sais, le facteur 3 Coupes du Monde, pour moi, c'est pas un des arguments les plus importants non plus, parce que, comme je t'en ai déjà parlé, un titre collectif, c'est pas... Oui, Pelé a une grande part de responsabilité dans les 3 Coupes du Monde, mais ça reste que sans son équipe, il n'aurait pas gagné tout seul. Donc, pour moi, un titre collectif, ça peut pas vraiment être un argument pour dire qui est le plus grand joueur. Mais si... Les titres individuels, oui, c'est sûr que Pelé n'a jamais pu remporter le Ballon d'Or. Ouais. Ça, c'est criminel. Là. On aurait dû, dès la création du Ballon d'Or, faire en sorte que tout le monde puisse le gagner. Pelé, Maradona, on aurait gagné, c'est certain. Mais bon, c'est ça. C'est qu'un titre collectif, peu importe combien de Liga Messi a gagné avec le Barça, peu importe comment Ligue des Champions et tout, c'est pour moi, c'est individuellement que ça joue. Puis individuellement, Messi en a excusez le mot, j'allais dire tabarouette, là, mais on a beaucoup des titres individuels. Donc, l'aspect Coupe du Monde, c'est sûr qu'en avoir trois, c'est sensationnel. Puis Pelé était excellent dans les trois. Mais si d'en avoir une, ça ajoute vraiment à son garde-robe de trophées. Mais je dirais que l'aspect collectif fait en sorte que ça c'est peut-être un argument moins valable, à mon avis, pour qui est le plus grand joueur. Puis juste avant de laisser la parole à Tom, puis ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé, là, mais...
Non, c'est correct.
Ouais, mais tu parlais de Messi qui restait dans son confort au FC Barcelone. Son confort au FC Barcelone, comme tu dis, c'est quand même la Liga qui accotait quasiment à la Premier League dans ce temps-là. La Liga n'est plus ce qu'elle est aujourd'hui, mais il jouait quand même dans la meilleure Ligue du monde ou la deuxième meilleure Ligue du monde à ce moment-là, dans les années où il était au Barça. Fait que, tu sais, ça a beau être sa zone de confort, c'est le niveau le plus... le meilleur niveau au monde, là, quand même. Là. Fait que, tu sais, je pense pas que c'est une mauvaise zone de confort. Contrairement à Pelé, qui, à Santos, jouait dans du bon niveau, dans du très bon niveau, je suis d'accord, mais c'était pas le meilleur niveau au monde pour moi, quand même, à ce moment-là, même si c'était du très bon niveau. Fait que, ouais, Tom, je sais pas si tu voulais dire autre chose.
Ben, écoute, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que vous êtes tout petit.
Ben, écoute...
Moi, je trouve que c'est le fun des conversations de même.
C'est le fun. Moi aussi, j'adore. Là. Puis, écoute, c'est pour vrai, moi, je serais capable d'avoir des discussions de même parce que...
On pourrait parler trois fois.
Les débats... le débat est très ouvert là, par rapport à ça. Là. Ouais. Bon, écoute, c'est pas n'importe qui peut être dans cette conversation-là. Là, si on va être clair là-dessus. Là, mais... Ouais. J'allais dire, mais il y a un autre point qui est hyper important, puis ça, c'est ça qui je trouve qui désavantage Messi. Je ne sais même pas si pour les Argentins, Lionel Messi est officiellement au-dessus de Maradona. Je pense que oui. Parce que je vais vous expliquer pourquoi un point qui est hyper important. Diego Maradona, la qualité qu'il avait comparé à Lionel Messi, c'est que c'était un gars du peuple. Mm-hmm. Lionel Messi, c'est pas le cas, malheureusement, pour lui. Oui, c'est un Argentin et tout, mais Lionel Messi, il faut se rappeler, à l'âge de 12-13 ans, il est parti du côté de l'Espagne parce que l'FC Barcelone est allé le chercher, puis en même temps, il y avait des problèmes de croissance aussi quand il était plus jeune, donc ils l'ont aidé par rapport à ça, puis grâce à ça, il était capable
d'avoir... Maradona a des problèmes de coke, lui, c'est un peu plus différent.
Ouais, c'est ça. Mais sinon, ça, c'est par la suite de sa carrière, mais bref, c'est un joueur qui a été formé en Argentine, c'est un joueur qui c'est un gars du peuple, puis... Ça, des fois aussi, ça vient peser sur la balance. Puis je pense que si Messi n'avait pas remporté cette Coupe du Monde-là, je pense que le débat n'aurait même pas encore eu lieu. Puis je pense que Maradona, dans la tête des Argentins, il serait encore à l'heure actuelle au-dessus de Lionel Messi. Mais moi, je trouve que même là, cette question-là, elle est très valable parce que moi faudrait que. Malheureusement, j'ai pas d'amis argentins. Je connais pas assez de gens dans ma vie, I guess. Mais ce serait intéressant de savoir si Lionel Messi est maintenant au-dessus de Diego Maradona pour les Argentins. Parce que oui, au niveau de la carrière, pour moi, il n'y a pas photo. Lionel Messi, grâce à sa longévité, grâce à ses faits d'armes, il est au-dessus de Diego Maradona dans sa carrière. Mais
je pense que ça, Argentins, c'est rendu,
c'est, je pense c'est rendu que assez est évident. Pour ça. Mais est-ce que en sélection nationale, est-ce que Messi est au-dessus de Diego Maradona? Là, la question, elle est intéressante. Parce que Diego Maradona, quand même, c'est une Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde remportée. Il a été finaliste à la dernière Coupe du Monde alors qu'il n'était même pas à 100%. Mais bref, le parcours aussi le parcours de Diego Maradona à Coupe du Monde de 1986, c'est probablement une des plus grandes performances individuelles au niveau de soccer de tous les temps, littéralement de tous les temps.
Les buts sont phénoménales. Le but du siècle, oui. Là, Maradona, il faut le dire.
Oui, c'est ça, il y a le but du siècle. Puis écoute, il y a eu aussi sa fameuse main de Dieu.
La main de Dieu dans le même match. Là,
dans le même match, c'est un son débat. Mais bref, il y a eu une des plus grandes performances dans cette compétition-là. Là, j'allais dire Maradona. Mais bref, moi, je trouve que c'est un débat qui est extrêmement intéressant. Puis, écoute, moi, j'ouvre cette question-là parce que je ne sais même pas à l'heure actuelle si Lionel Messi en Argentine est au-dessus de Diego Maradona parce qu'il n'y a pas le facteur peuple. Les gens ne peuvent pas s'identifier à Lionel Messi tellement que pour eux, Lionel Messi n'a une catégorie à part.
Moi, je pense... Ah, vas-y, Tom.
Je pense pas que c'est un facteur extrêmement important dans le débat du coach. Je pense qu'il faut garder ce qui se passe sur le terrain. T'sais, oui, c'est un facteur en tant qu'aura de joueur, mais je pense pas que ce facteur-là vient impacter ses performances sur le terrain en tant que tel. Selon moi, c'est ça qui compte dans ma compréhension de GOAT.
Ben ouais, moi je suis d'accord. Je pense que c'est deux débats différents. Je pense aussi que c'est une excellente question, d'où que c'est de par sa personnalité aussi que Maradona était le gars du peuple. Tu sais, il était friendly, il dans les entrevues. Il était moins réservé, moins introverti que Messi. Les gens s'attachaient à lui. Et pour lui, les gens, ça allait à dire qu'il était Dieu pour eux. Là. C'était la représentation de Dieu sur Terre, quasiment là, pour certains Argentins, Maradona. Ce que Messi n'est pas. Fait que je pense que en termes de personnalité, Maradona, je pense, reste en haut de Messi pour les Argentins. Mais je pense que niveau joueur de soccer, pour moi, il n'y a pas photo. Là. C'est Messi qui est un meilleur joueur de soccer que Maradona. Pour moi, c'est évident. Même si Maradona est un des plus grands d'histoire, c'est vrai. Mais niveau, tu as raison, le peuple et qu'est-ce qu'il représente pour l'Argentine, ouais, ça se peut très bien que Maradona soit encore en haut de Messi. Attends, on a des dans le chat.
Ben, attends, parce que là, on va finir l'épisode rapidement. Là,
ouais, avec un top 5, ouais.
Thomas, je ne sais pas si on t'en avait parlé, mais moi et Ali, on veut faire notre top 5 des plus
grands joueurs
de
soccer
de tous les temps. On va finir
l'épisode. Ça tombe bien, je l'ai fait autrefois.
Oui! Mais là, Thomas, veux-tu commencer ou tu veux que je commence?
Ah, je peux y aller.
Vas-y mon Tom. Alors, voilà, top 5, mesdames et messieurs, des plus grands joueurs de tous les temps. Tom, commence-nous ça.
Merci.
Mais commence par le cinquième.
OK, cinquième. Ronaldo, Cristiano.
Cristiano Ronaldo, 5!
Wow!
Oh là là!
Wow!
R9.
R9-4, OK.
Maradona, Pelé et Messi.
Wow! Tu dis que j'y aide ou j'y vais?
Vas-y.
On en parlera un peu après les ceux des trois, mais Cristiano Ronaldo 5, man. Tom, tu me surprends. Moi, j'ai Zinedine Zidane. Pas Zinedine Zidane. J'ai Zidane 6, mais il ne rentre pas dans mon top 5. J'ai Ronaldo Nazario, R9, numéro 5. J'ai Diego Maradona, numéro 4. J'ai quasiment le goût de mettre Nazario 4. Mm-hmm. Ah, c'est tough. Ouais, je mets Diego Maradona 5. Ça, c'est rough. Mais ouais, Maradona 5, Ronaldo Nazario 4, Pelé 3, Cristiano Ronaldo 2 et Messi numéro 1.
Wow! Écoute, moi, je vais aller avec mon top 5. Moi, malheureusement, je n'ai pas R9 dans mon top 5. Okay. Niveau talent, pour moi, il est top 3. Là, mais j'allais dire, malheureusement,
ouais, c'est les blessures,
la longévité, pour moi, elle n'est pas assez présente pour qu'il figure parmi mon top 5. Mention arabe également à Michel Platini. Attends une seconde.
Oh, attends, il est là.
Frank Beckenbauer également, Marco Van Basten. Bref, il y a eu plusieurs grands joueurs dans cette histoire. Numéro 5, pour moi, Johan Cruyff est numéro 5. Je vous explique pourquoi.
Bon choix.
Cet homme-là a une carrière fantastique. Puis aussi, comme entraîneur, tu sais que c'est Johan Cruyff qui est derrière le tiki-taka, le fameux tiki-taka.
Ouais, j'ai visité le camp nou cet été, man. Johan Cruyff était tellement important pour le Barça.
Le Johan Cruyff, au niveau du jeu tactique, planétaire au soccer, c'est cet homme-là est dans une catégorie à part. Là. J'allais dire, au FC Barcelone, grande carrière au niveau des Pays-Bas aussi. Ce gars-là a tout gagné, sauf une Coupe du Monde. Il a été extrêmement malchanceux, a perdu en finale de la Coupe du Monde avec les Pays-Bas. Deux Coupes du Monde de suite. Avec une belle génération du côté des Pays-Bas à ce moment-là. Mais Johan Cruyff, pour moi, est quand même un des plus grands joueurs de tous les temps. Un excellent entraîneur aussi, lui qui était dans les fameux tiki-taka du FC Barcelone. Style qui est encore utilisé aujourd'hui. Bon, style qui fonctionne moins bien aujourd'hui, mais qui a été sensationnel, surtout dans l'apogée du Barça fin des années 2000, début 2010, avec des Iniesta. Et Messi également aussi, qui a profité de ce style de jeu implanté par Johan Cruyff quand il était entraîneur du côté du FC Barcelone. Numéro 4. Numéro 4 pour moi, Cristiano Ronaldo, pour sa longévité, pour sa carrière sensationnelle, a remporté aussi un titre très important qui est celui de l'Euro 2016, que j'avais un peu critiqué au début de l'épisode, mais que ça, c'est un titre extrêmement important. Comparé à Messi, à Pelé, à Maradona, malheureusement, c'est extrêmement difficile pour Cristiano Ronaldo d'avoir cet argument de Coupe du Monde, parce que à part cette année où il y avait vraiment, pour une fois, une équipe, mais qui était en fin de carrière, dans son apogée, il n'y avait pas assez de moyens du côté du Portugal pour l'amener à remporter une Coupe du Monde. Malheureusement, c'est ça qui est assez dommage pour Cristiano Ronaldo, mais un grand joueur, surtout à son époque du Real Madrid. Pour vrai, je suis quasiment prêt à me débattre pour dire que le prime de Cristiano Ronaldo, c'est un des meilleurs primes de tous les temps, si ce n'est pas le plus grand prime de tous les temps, surtout celui du Real Madrid.
C'est pour ça que ça me surprend que vous le mettiez 4 et 5e, là, mais bon.
Cristiano Ronaldo a son 9 ans de Real Madrid, je m'excuse, mais c'est probablement le joueur le plus culotte que j'ai vu de ma vie au soccer. Là, j'ai dit, ce gars-là pouvait tout faire. Ce gars-là, s'il décidait que... Il pouvait décider à lui de ça, de dire, OK, bon, ben regarde, moi on gagne ce match-up, fini. Puis, tu sais, il y a eu ces capacités-là, fait que je le mets numéro 4. Numéro 3, Diego Maradona, qui, un peu comme Lionel Messi, avait ces capacités-là de pouvoir déstabiliser la défense, de pouvoir prendre le ballon, puis de jouer tous les joueurs pour aller au but. Un joueur qui, pour moi, s'il s'était mis au sérieux, puis il n'avait pas tombé dans l'histoire de drogue, puis s'il avait été un peu protégé comme Lionel Messi, peut-être qu'il aurait pu être le plus grand joueur de tout le temps, avec cette capacité-là folle de pouvoir dominer une rencontre, de pouvoir déstabiliser des défenses, tout en jouant Diego Maradona, qui a inspiré de nombreux joueurs à avoir des grandes carrières. Numéro 2, Lionel Messi, comme on l'avait expliqué plus tôt, et le premier pour moi, l'incontestable, le roi Pelé, et numéro 1, comme plus grand joueur de soccer de tous les temps. Bon. C'est un débat qui...
Mais je te dis incontestable, mais on l'a contesté pas mal. Dans cette
ouais,
épisode.
Mais écoute, pour moi, c'est incontestable. Mais écoute,
je comprends. Écoute, voulez-vous revenir sur les... En fait, moi, je veux revenir sur quelque chose parmi vos tops, là, pour finir. Cristiano Ronaldo, 4e et 5e dans vos top 5. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Ronaldo, là, on vient de parler que pour nous, Messi est soit numéro 1, soit numéro 2. Puis pendant longtemps, là, très longtemps, même encore certains aujourd'hui ou avant la Coupe du Monde, disaient que Ronaldo était devant Messi. Et pendant, en 2016, en 2016-2018, c'était 50-50 quasiment, là, le débat Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Là. Fait que, qu'un gars ait compétitionné Lionel Messi pendant autant d'années, pour moi, c'est quasiment sans équivoque deuxième meilleur joueur au monde. Mais écoute, ça me surprend vraiment beaucoup qu'il y ait 4e et 5e. Je m'attendais peut-être à 3, mais à 4 et 5, honnêtement.
Je vais être franc avec toi, j'ai jamais aimé Ronaldo. Okay. Je reconnais que c'est un grand joueur, mais.
Bon, c'est vrai qu'on est un fan d'Arsenal. Mais là, je te parle pas de ce que tu aimes.
Non, ça n'a aucunement rapport avec Arsenal. J'ai jamais aimé Ronaldo. Même dans le temps que je joue au Real, j'ai jamais aimé Ronaldo depuis que je suis petit. Puis je pense que dernièrement, il est en train de ruiner sa legacy avec tout ce qui se passe avec Manu.
La legacy est tellement big, tu peux pas la ruiner. Là.
Ben, il est en train de la diminuer en s'il vous plaît.
Même la Juventus aussi, là, on a pas beaucoup, là, mais la Juventus, avant qu'il arrive, là, genre, ils avaient une belle équipe, ils mettaient beaucoup sur Paulo Dybala. C'est une équipe qui était extrêmement bien construite, celle de la Juventus. Puis avec Cristiano Ronaldo, malheureusement, ben, ça n'a pas goûté à grand-chose. Puis la Juventus doit se reconstruire en Serie A. Là, donc, c'est vrai que les pas avec Cristiano Ronaldo...
Ouais, mais ça, c'est pas la faute à Ronaldo si les dirigeants ont voulu signer, là.
Non, c'est ça.
T'sais, lui, il a bien fait à Juve. Il a marqué beaucoup de buts à Juve.
Heureusement, il n'a pas gagné la fameuse Ligue des Champions qu'il cherchait. Ben oui, Cristiano Ronaldo, monsieur Ligue des Champions aussi. Hein. Faut pas l'oublier.
C'est le plus grand
joueur de l'histoire de cette compétition-là.
C'est même ça aussi qui fait en sorte que pour moi, il est deuxième. Là. Non seulement il a talonné Messi toute sa carrière, puis il est monsieur Ligue des Champions. Là. Fait que, pour moi, c'est pour ça qu'il est deuxième, mais...
Mais
quatrième, cinquième, je suis encore très...
Ouais, mais pour moi, les trois joueurs que j'avais mentionnés avant là, pour moi, Diego Maradona, Lionel Messi, Pelé, c'est, pour moi, ils sont juste plus grands que lui parce que c'est des joueurs qui, non seulement avaient cette capacité-là, comme Cristiano Ronaldo, de pouvoir décider, mais c'est des joueurs qui savaient plus qu'à marquer des buts. Parce que pour moi, Cristiano Ronaldo, c'est vraiment marquer des buts, mais je sais pas, je trouve que il manque quelque chose chez CR7 pour vraiment que je le mette au-dessus des trois joueurs-là, puis je m'excuse, mais même à l'époque, pour moi, le débat était même
pas... Pelé aussi, c'était surtout ça, marquer des buts, tu sais.
Ouais, mais Pelé, c'était différent. Pelé, c'était... il y avait moins d'arrogance, il y avait moins de... Il y avait moins de... On met tout sur lui, genre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Parce qu'on concentre tout sur lui.
Il y a eu beaucoup de joueurs à Madrid qui sont sacrifiés pour Cristiano Ronaldo. Les Karim Benzema, les Luka Modric, les Toni Kroos, Gareth Bale. C'est des joueurs qui avaient des talents incroyables et qui sont sacrifiés pour la réussite de Cristiano Ronaldo. Donc, je sais, peut-être c'est là que ça devient assez intéressant, le débat, mais moi, Cristiano Ronaldo, il manque des choses. Mais bref, il faut terminer l'épisode à un moment donné.
Je comprends ce que... On va finir là-dessus. Je comprends ce que tu veux dire par se sacrifier pour la réussite de Cristiano Ronaldo, mais pour moi, c'était pas se sacrifier pour la réussite que de Ronaldo, c'était pour la réussite du Real Madrid. Le coach disait... C'est comme ça qu'on a le plus de chances de mieux performer si des Bale, des Benzema et etc. se travaillent pour faire marquer Ronaldo. Donc, voilà. Là, on a assez parlé. On pourrait continuer cette conversation-là des heures. Mais voilà. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont changé d'idée, d'opinion durant ce débat? Je ne crois pas. Mais quand même, ça a été des très nice conversations avec vous, les gars. Mm-hmm. De Doual Ibrahim, Thomas Lafond, merci beaucoup pour cet épisode extrêmement cool, divertissant de 1h33. Donc, merci à vous.
Ça a été un grand plaisir.
C'était un grand plaisir, hein?
Yes, vraiment.
Faut faire des débats. Puis j'aimerais ça que Nick soit là pour cet épisode-là. Je pense qu'il m'aurait suivi. Yes. Peut-être pas qu'il m'aurait suivi pour Pelé, mais il m'aurait suivi pour dire que Lionel Messi n'est pas le GOAT. Peut-être que lui, il a raté le CR7, hein, qui sait, hein?
Peut-être. Ça aurait ajouté un autre point de vue à ce débat-là. Puis ouais, on va en refaire sur d'autres sujets ou sur peu importe. C'est le principe de Jason Ballon Rond, ce podcast, qui est encore très jeune. Donc là-dessus, c'était Olivier Prince Groslot. Est-ce qu'on est good pour le jingle? Est-ce que je fais la conclusion live?
Ouais, on est parfait
parce qu'on sentait. On sentait Doux un peu paniqué dans le chat. Donc, voilà. Donc, officiellement, c'était Olivier Prince, Groslot à l'animation. C'était un autre épisode de Jason Ballon Rond. On parlait de la Coupe du Monde. On a dit au revoir. Le CF Montréal avec Hernan Losada et le débat du GOAT. Qui était le GOAT? Et ça nous a fait un grand plaisir. Merci, les gars. Merci à nos auditeurs. Et on se revoit très bientôt pour un autre épisode. Salut!